de l'info sur VOA Afrique.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord, le ministre des Finances du Tchad, candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, évoque les défis qu'elle sera appelée à relever.
La création de l'emploi pour les jeunes va inévitablement avec le secteur privé. Donc, il faut absolument faire la promotion du secteur privé de façon extrêmement vigoureuse.
On entendra M. Kortché Bedoumba. Et à la demande de l'administration Sassou Nguesso, la CNUSED a procédé à une analyse de la politique d'investissement du Congo-Brazzaville.
Nous avons identifié des défis à trois niveaux dans la politique d'investissement de la République du Congo. Au niveau juridique, au niveau opérationnel et au niveau institutionnel.
Chantal Dupasquier, haute responsable des politiques d'investissement à la CNUSED, évoquera les conclusions de l'agence onusienne. Et le Rwanda va lancer en mai un service de transfert d'argent transfrontalier avec le Kenya. Le Fonds monétaire international a approuvé lundi le déboursement d'une nouvelle tranche de prêt de 27,5 millions de dollars au Tchad au motif des progrès accomplis dans le domaine des réformes structurelles. Néanmoins, le Tchad doit redoubler d'efforts pour soutenir le rythme des changements structurels dans le secteur pétrolier, a averti le FMI dans un communiqué qui met également en garde le gouvernement de N'Djamena contre le risque de surendettement qui reste élevé. Le ministre tchadien des Finances et du Budget, Kortché Bedoumba, s'est félicité de l'appui du FMI. Candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, il a évoqué certains des défis qu'elle sera appelée à relever, notamment aider à mitiger le chômage qui impacte durement la jeunesse africaine. On l'écoute.
La banque peut prendre plusieurs initiatives. La création de l'emploi pour les jeunes va inévitablement avec le secteur privé. Donc, il faut absolument faire la promotion du secteur privé de façon extrêmement vigoureuse en assistant d'abord les pays à créer les conditions nécessaires à la promotion du secteur privé. Il faut aussi mettre en place les fonds nécessaires au soutien aux PME-PMI. C'est des sources importantes de création d'emplois et de création de richesses, mais dans beaucoup de pays, il n'y a rien pour assister les petites et moyennes entreprises. Donc, il existe des fonds, il faut promouvoir l'utilisation de ces fonds et les élargir, mettre en place également des mécanismes de garantie au niveau de tous les financements de PME-PMI. Il faut aussi soutenir l'entrepreneuriat, créer les conditions pour que réellement les petites et moyennes entreprises qui sont une source importante d'emploi puissent pouvoir se développer. Il faut aussi soutenir de façon très forte les microcrédits, parce que les microcrédits permettent de toucher les gens les plus démunis dans les localités qui sont souvent assez isolées ou dans les couches de population les plus démunies. Donc ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faudra encourager et développer également au niveau des pays. Donc, c'est un travail à faire avec les pays, apporter la mobilisation, l'expertise nécessaire, mobiliser aussi les ressources et avoir avec eux un plan de développement, un plan d'appui direct au niveau des jeunes, au niveau de chaque pays, avec des indicateurs de suivi et de performance qui permettent réellement de noter que quelque chose change dans le pays et qu'on est en mesure d'apporter des solutions durables. Parce que si on n'apporte pas de solutions durables à cette question d'emploi des jeunes, un coût de risque énorme dans tous les domaines dans le cadre du continent africain.
Pour appuyer le secteur privé et aider à créer des emplois, encore faut-il que le secteur privé dispose des infrastructures nécessaires. Est-ce que la Banque africaine de développement peut coopérer avec la nouvelle banque parrainée par la Chine, la Banque d'infrastructures pour le développement ?
Les besoins en financement des infrastructures en Afrique sont énormes. Il n'y a pas assez de ressources aujourd'hui pour faire face au financement des infrastructures en Afrique. Naturellement, il faut pour les financer, faire la promotion d'abord des ressources internes au niveau de chaque pays. La mobilisation de l'épargne dans chaque pays est souvent négligée. Il faut aussi mobiliser les instruments de financement dans les régions, les groupes de valeurs régionales, les banques régionales, les banques de développement. Tout ça doit être mobilisé en plus du financement international. Cette banque de Chine, banque des infrastructures que vous citez, c'est une banque qui est la bienvenue puisque la Banque africaine de développement fait du financement des infrastructures une de ses priorités parce que les infrastructures, c'est un préalable pour l'intégration régionale, notamment le secteur d'énergie, le secteur de transport et de technologie de l'information. Et donc, bâtir le partenariat le plus large possible pour mobiliser les ressources en faveur du continent africain, c'est une des missions de la banque. Donc, ce n'est pas seulement cette banque, c'est également naturellement la Banque mondiale, c'est aussi les autres, tous les pays émergents qui ont également des ressources importantes. Donc, la banque doit élargir autant que possible toute sa capacité de mobiliser des ressources et de jouer un rôle de synergie pour mobiliser les ressources pour financer le développement des infrastructures en Afrique, donc naturellement y compris le secteur de l'énergie, comme vous dites, et capital.
Le Fonds monétaire international vient d'achever la première revue de l'accord FEC. Il a approuvé une augmentation de l'accès, un décaissement de près de 28 millions de dollars en faveur du Tchad. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision?
Je suis naturellement satisfait de cette décision, parce que cette décision, d'abord, c'est la reconnaissance des efforts du Tchad, de toutes les réformes, des performances que le Tchad a connues ces deux dernières années et qui ont permis donc de renouer l'année dernière avec le FMI, avec l'accord sur un programme triennal qui devait se manifester par le point d'achèvement qui vient d'être prononcé par le FMI. Donc c'est une reconnaissance de cette performance du Tchad dans sa gestion. C'est aussi une annulation d'environ 1 milliard de la dette du Tchad. Ça ouvre la porte à des mobilisations de ressources parce que ça nous donne accès à beaucoup d'instruments de financement, soit au niveau des institutions. Ça crée aussi une plus grande crédibilité pour notre pays en termes d'accès au marché financier. Donc oui, c'est une grande étape qui n'est pas une fin en soi, mais qui nous ouvre la porte à d'autres possibilités, élargit aussi notre capacité à mobiliser des ressources. Donc nous sommes effectivement satisfaits au niveau du Tchad par... Et moi, surtout en tant que ministre des Finances qui avait la responsabilité de conduire cette réforme, c'est certainement un sujet d'encouragement.
Le ministre tchadien des Finances et du Budget, M. Kodje Bedoumra, il était joint au Tchad. Ici Washington, Camille Grodidier avec vous pour le magazine de l'économie. Concernant la République du Congo, eh bien, Brazzaville a su attirer d'importants investissements étrangers directs ces dernières décennies. Mais voilà, ils sont concentrés à plus de 90% dans le secteur du pétrole. À la demande du gouvernement, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, a procédé à une analyse de la politique d'investissement de l'administration Denis Sassou Nguesso et lui a suggéré des réformes. Pour un bilan des conclusions de la CNUSED, on écoute Chantal Dupasquier, haute responsable des politiques d'investissement à la CNUSED.
Nous avons identifié des défis à trois niveaux dans la politique d'investissement de la République du Congo, au niveau juridique, au niveau opérationnel et au niveau institutionnel. Au niveau juridique, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait un éparpillement des dispositions relatives aux investissements étrangers directs. Parmi les quelques exemples que je peux vous donner, il y avait aussi un régime d'expropriation qui était incomplet, une absence de définition claire de ce qui est entendu par contenu local dans la législation et une emphase trop faible dans les textes de façon générale sur la notion de développement durable. Au niveau opérationnel, on a vu que les procédures sont encore nombreuses et coûteuses pour créer des entreprises. Le rapport montre aussi que le régime fiscal est de façon générale assez peu compétitif. Les taux sont élevés. On a une prolifération d'incitations fiscales pour essayer d'attirer des activités économiques. Et en même temps, on a aussi des lourdeurs administratives. On a un régime foncier qui est complexe. La base juridique de ce régime est éparpillée sur une quinzaine de lois, donc difficile de se faire une idée assez rapidement de la façon dont ça fonctionne. Il y a des difficultés aussi d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée. Et on a noté également, parmi l'ensemble des éléments qu'on a analysés, une absence de loi cadre sur la concurrence. Au niveau institutionnel, on a vu qu'il y avait plusieurs institutions qui avaient été créées, notamment au cours des dernières années, avec des mandats de promotion de l'investissement ou de facilitation des investissements. Il y avait un manque de capacité au niveau de ces institutions pour s'acquitter de leur mandat. Qu'il était nécessaire aussi de s'assurer de bons mécanismes de coordination entre les différentes institutions avec des responsabilités en matière d'investissement.
Quelles sont certaines des mesures envisagées par la République du Congo pour encourager les investissements dans les secteurs autres que le pétrole et les minerais?
Alors, la République du Congo a entrepris au cours des dernières années des efforts importants de réforme pour attirer justement des investissements dans les secteurs autres que le pétrole et les mines. Il y a toute une série de réformes qui ont été entreprises. Nous, de notre côté, ce qu'on préconise, c'est de réformer la charte des investissements pour qu'elle permette de mieux encadrer et mieux promouvoir les activités économiques qui sont préconisées dans leur plan national de développement. Ce plan national de développement est catégorisé en ce qu'ils appellent 7 grappes d'activités économiques. Donc, ils veulent développer l'activité économique dans différents domaines, l'agriculture, l'agro-industrie, mais aussi les forêts, l'industrie du bois. Ils vont continuer de travailler au niveau du pétrole et des hydrocarbures, au niveau des mines, mais aussi développer le tourisme et l'hôtellerie, les services financiers, le secteur bâtiment, travaux publics et matériaux. Donc, 7 secteurs, vecteurs de croissance économique qui sont prévus dans leur plan national de développement.
Pourquoi est-il si important d'encourager les investissements dans le secteur agricole?
Comme vous le savez, le Congo est un pays qui jouit d'une position géographique idéale. Les terres y sont très fertiles, la pluviométrie est très bonne. Donc, de façon générale, c'est un pays qui bénéficie des conditions idéales pour développer l'industrie agricole. Aujourd'hui, toutefois, on voit qu'à peu près, selon les estimations du gouvernement, environ 10% des terres arables qui sont cultivées. Et il y a d'autres estimations qui montrent que ça pourrait même être beaucoup moins que cela. En même temps, c'est un pays qui importe une très forte proportion de ses denrées alimentaires. C'est un pays qui fait face aussi à un taux de pauvreté qui demeure très élevé. On notait environ 45% en 2011. Et un pays où la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Si vous regardez, par exemple, les chiffres qui sont cités dans leur cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, le taux de malnutrition en 2010 était de 29%, ce qui est très élevé. Et la FAO cite pour sa part des chiffres qui seraient peut-être même aux alentours des 37% pour la période 2010-2012. Donc on fait vraiment face à un problème très très important au niveau de la malnutrition et de la pauvreté dans un pays qui jouit des conditions idéales pour faire de l'agriculture.
Comment protéger les exploitations familiales qui, en fait, peuvent non seulement offrir des emplois, mais aider à remédier ces taux de malnutrition?
Nous, ce qu'on met en évidence dans notre rapport, c'est les opportunités, les bénéfices qui peuvent être associés aux investissements étrangers directs en agriculture. Mais on met également en garde contre les risques qui peuvent être associés. Donc, tout ce qui est impacts sociaux négatifs, une création d'emplois qui peut être limitée, des choix de production ou des cultures qui pourraient ne pas assurer la sécurité alimentaire, toutes les questions qui sont reliées à la dégradation environnementale. Et dans notre rapport, la thèse que nous faisons, c'est qu'il y a, pour contrer ces effets négatifs, le rapport insiste sur l'importance du choix du modèle de développement agricole. De plus en plus, on voit qu'il y a différents modèles qui sont possibles pour développer l'agriculture. On reconnaît que les grands complexes agro-industriels peuvent jouer un rôle pour aider le pays à développer son agriculture. En même temps, le rapport demande d'être prudent avec ces grands complexes industriels et de considérer aussi des modèles qu'on appelle modèles d'entreprise inclusifs.
On écoutait Madame Chantal Dupasquier, haute responsable des politiques d'investissement à la CNUSED. Elle était jointe à Genève. Ici Washington, la Voix de l'Amérique, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie. Au micro, Camille Gros-Didier. Plus des trois quarts des entreprises américaines étudiées par les ONG Amnesty International et Global Witness ne respectent pas les obligations de la loi Dodd-Frank sur les minerais provenant des zones de conflit. C'est ce qu'affirment les ONG dans un rapport publié récemment. Pour plus de précisions sur ce document intitulé « Une mine de transparence », on écoute Evie Frank, spécialiste de la République démocratique du Congo à Amnesty International.
En 2014, juste pour donner un peu de contexte, en 2014, c'est la première année dans laquelle plus d'un millier d'entreprises ont remis un rapport sur l'usage des minerais provenant des zones de conflit à la Security and Exchange Commission. Amnesty et Global Witness, nous avons pris un échantillon de ces entreprises. Nous avons sélectionné une centaine d'entreprises. 50 d'entre eux sont les 5 plus importants de 10 secteurs d'activité différents. Et les 50 autres ont été choisis de manière aléatoire avec un programme informatique. Après, ce que nous avons fait, c'est de fixer 10 critères pour évaluer la qualité des rapports qui sont soumis à la Security and Exchange Commission, sur base desquels on a fait une évaluation des efforts de diligence que ces entreprises ont fait. C'est sur base de ça que nous, on a conclu que presque 80% des entreprises ne vérifient pas correctement le produit qui contient des minéraux provenant des zones de conflit. Mais nous aimerons aussi clarifier que ça veut dire que quand même une entreprise sur 5 a bien respecté la loi et ils ont mis en œuvre leur devoir de diligence. Ils ont prouvé que c'est bien possible d'appliquer ce devoir de diligence et ainsi ils ont écarté l'argument des entreprises que la mise en œuvre d'un devoir de diligence sera trop compliquée ou trop coûteuse. Et donc, Amnesty et Global Witness regrettent aussi que ces grandes entreprises et les groupes d'industrie ils ont dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour combattre la loi, plutôt que d'utiliser cet argent et ce temps pour mettre en œuvre cette loi.
Les entreprises qui ne se sont pas contentées de démarches auprès de leurs fournisseurs directs, mais qui ont pris contact ou tenté de prendre contact avec les fonderies, les affineries qui transforment les minerais, elles montrent vraiment la voie, elles montrent que ça peut se faire.
Oui, effectivement, et c'est ça en fait un des conclusions principales de notre rapport, c'est que c'est possible, c'est vrai que ça demande un effort, ça demande un investissement et du temps. Il faut que les entreprises établissent une politique pour identifier les risques dans leur chaîne d'approvisionnement. Ils doivent vraiment faire les études pour clarifier leur propre chaîne d'approvisionnement parce que souvent, les entreprises ne savent même pas d'où viennent ces minéraux. Mais donc, 21% des entreprises que nous avons étudiées, ils ont fait ces efforts et que c'est bien possible de le faire.
Dans leur rapport Amnesty et Global Witness, note que plus de la moitié des entreprises examinées ne signalent même pas à leur cadre supérieur les risques qu'elles ont identifiés dans leur chaîne d'approvisionnement.
Oui, exactement. Et donc, juste pour clarifier, ça c'est une demande qui est imposée par le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement issues de conflits. Et donc, d'abord, il faut avoir la politique pour identifier les risques. Une fois qu'un risque soit identifié, il faut gérer les risques. Et en ce processus de gestion de risques, c'est très important que les cadres supérieurs d'une société soient au courant de ces risques et que ces problèmes-là soient traités par les cadres de l'entreprise. Nos recommandations du rapport, donc, premièrement, nous, on demande aux entreprises de prendre cette obligation au sérieux et de fournir des infos sérieuses et détaillées de leur exercice de devoir de diligence. Cette recommandation vise les rapports qui doivent être soumis pour 2016. On demande aux entreprises d'être plus actives dans leur communication avec les fournisseurs, d'identifier et de contacter des fonderies et des raffineries et, par exemple, organiser des formations pour leurs fournisseurs pour leur expliquer les obligations sur cette loi.
On écoutait Evie Frank, spécialiste de la République démocratique du Congo à Amnesty International. Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier qui vous remercie de l'avoir suivi sur VOA Afrique.